Elle est là, un rayon de soleil. Antonine Iacarini.
Allô!
Deuxième rayon de soleil, Pascal Cévin.
Salut!
Puis on a le soleil sur la capitale nationale. On est gâtés côté température, quoique encore un peu froid. Mais
c'est beau.
La lumière de même, on va prendre ça.
Toit ouvrant.
Tout le temps. Je l'ai ouvert la semaine passée, le toit ouvrant du Jeep. Là.
T'as ça, toutes les toiles?
Non, juste le top, là. Juste le haut.
Ah, oh, t'as raison, je me souvenais pas qu'il y avait un tout petit aussi.
Ça a fait du bien. Comment ça va, Antonine Iacarini? Beaucoup de travail ces temps-ci?
Ça peut pas mieux aller, moi, que pendant une campagne électorale.
T'es Quelle heureuse?
Ça? Ben oui, moi, ça me rend très heureuse.
Est-ce que tu t'ennuies d'être en arrière?
Non, pas en tout.
Zéro pin-bar. Parce que c'est rare que les gens qui ont été en politique s'ennuient pas du en arrière, malgré tous les défauts que ça comporte.
Ouais, tu m'aurais posé la question, mettons, dans les 2 ans après mon départ, ça aurait été différent. Parce que c'est un peu comme une drogue, mais quand t'as réussi à te sevrer, t'es correct, tu veux plus retourner là.
Fait que le range est 2 ans, selon toi, là?
Ben, ça, je pense que ça peut dépendre de chacun, puis tu peux faire quelques rechutes. Mais moi, parler de politique avec les gens, puis échanger avec les gens sur la politique, ça me rend vraiment très heureuse. Et ce, sans les horaires de fou et... C'est ça. C'est voilà. Le meilleur des deux mondes.
T'as plus du temps à passer avec la famille.
Exact.
Voilà. Sondage Nanos, la presse de Globe and Mail. Je trouvais ça intéressant, les réponses qui ont été données par tous ceux qui ont participé au sondage. Le meilleur politicien pour négocier avec Trump, alors qu'on ne le connaît pas vraiment bien, c'est Mark Carney avec 62,3% contre Pierre Poilievre, qui est très, très bas. Pratiquement la moitié, en fait, là, plus que la moitié, 23,8%.
Ouais.
Est-ce qu'il va réussir à remonter la pente, Pierre Poilievre? Puis comment il pourrait réussir à justement remonter la pente? Des gaffes par-dessus gaffes de Mark Carney?
Moi, je pense qu'il va manquer de temps, Pierre Poilievre. Ouais. Parce que Mark Carney, c'est la boîte mystère. Les gens projettent sur ce qu'ils ne connaissent pas un peu, ce qu'ils aimeraient avoir. Puis là, moi, je le compare souvent à un expert en gestion de crise là, qui arrive dans une organisation. Tu sais pas trop c'est qui, mais il paraît qu'il peut te sortir de la chenoute, lui.
Il le voit comme Moïse, maintenant. Il va séparer les eaux, pour vrai.
Oui, un sauveur, Arrête. Un peu. Puis là, tu sais, je veux pas prêter des intentions à tous les électeurs, mais j'entends beaucoup qu'en ce moment, c'est ça qui est important, c'est de faire face à M. Trump, que l'expérience de M. Carney est rassurante, qu'il a l'air d'avoir une personnalité calme. Quand il a été élu chef du Parti libéral et premier ministre de facto, il s'est pas garoché pour aller parler à M. Trump, faire des déclarations. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté comme ça qui est rassurant. Pierre Poilievre, ben, il ne peut pas s'inventer une expérience qu'il n'a pas. Il n'en a pas d'expérience beaucoup en dehors d'être député. C'est un député depuis très, très, très longtemps. Un très bon chef de l'opposition.
Il connaît clairement la machine politique, plus que Carney peut-être.
Absolument. Bon débatteur, parle mieux français que M. Carney. Et amène aussi d'autres enjeux. Parce que moi, je vais vous dire, je trouve ça un peu malsain que l'élection ne porte que sur les États-Unis. Oui, c'est important. Oui, ça nous rend tous un peu stressés, anxieux, beaucoup d'incertitudes. Cela dit, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme pays? Et c'est ce que les conservateurs font, c'est ce que d'ailleurs le NPD et le Bloc québécois aussi font également. Mais le problème, c'est que ça percole pas. Et si l'élection durait 6 mois, je pense que ça finirait par coller, parce que les gens diraient, c'est vrai, là, t'sais, on ne veut pas donner carte blanche à quelqu'un sur tout et n'importe quoi.
Et pourtant, on disait que c'est des élections extrêmement importantes avant que Trump arrive, il commence à prendre et s'emparer de tout ce qui est médias et politique.
Ces problématiques-là n'ont pas disparu.
Mais non.
Cette semaine, avec l'immigration, et j'ai envie de dire, en fait, les migrations, là, dans ce cas-ci, étant donné que M. Trump veut expulser des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, notamment Amérique latine et des Haïtiens des États-Unis, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qui va ressurgir de notre côté de la frontière? Puis ça a déjà commencé, on a vu à la colle déjà une augmentation des demandes. J'étais très curieuse de voir la réaction de Mark Carney, parce que j'ai aucune idée c'est quoi sa vision en matière d'immigration.
Jase-tu ça dans les corridors, mettons? Ou on
Quel a corridor, que, mettons?
Plus du côté dans l'équipe des libéraux puis les pro-libéraux. Est-ce qu'on est en train de se dire peut-être qu'il faudrait développer un peu plus nos politiques sur d'autres choses?
Le premier drapeau jaune qui s'est levé, c'est quand il a nommé son conseil des ministres. Hein, juste avant de partir en campagne électorale, il y avait beaucoup de postes qui avaient disparu. Langue officielle, conditions féminines, droits des LGBTQ,
un
etc.
Un petit cabinet.
Un petit cabinet de guerre. Puis là, les gens se sont dit, est-ce que c'est un manque de sensibilité pour certains autres enjeux? Est-ce qu'il est purement économique? Est-ce qu'il y a... Quelles sont ses positions sur ces autres enjeux-là? Et il y avait une impression, effectivement, qu'on ne le connaissait pas. Avant-hier, sur l'immigration, M. Carney a répondu de manière assez ferme, puis très, très différent de Justin Trudeau. Il a dit, écoutez, il y a une entente qui est en cours. Si les gens se présentent ici et qui ont déjà fait une demande d'asile aux États-Unis, l'entente prévoit que tu restes dans le premier pays.
Exact.
Donc, on les revire de bord.
Ouais. C'est vrai que Justin Trudeau n'aurait jamais dit ça.
Et au même titre, Trump ne pourrait pas renvoyer les Haïtiens à Haïti, parce qu'Haïti, c'est le chaos présentement.
Ça n'a aucun bon sens.
Le gouvernement en place est incapable de gouverner. C'est des gangs de rue, c'est des policiers qui deviennent membres de gangs de rue ou des membres de gangs de rue qui deviennent policiers. Énormément
de criminalité. Les aéroports ne fonctionnent même plus.
Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, Trump ne pourrait pas les envoyer à Haïti actuellement.
On ne sait pas ce qui va se passer, honnêtement. Là, les gens vont pouvoir aussi contester leur ordre d'expulsion. C'est ce que la cour a
décidé. Mark Carney semblait tenir la ligne dure concernant l'immigration, contrairement à Justin Trudeau qui disait « Venez chez nous, on va vous accueillir ».
Absolument. Okay. Donc,
est-ce que c'était la façon à faire?
Ben, je pense que, c'est la chose à faire dans le sens qu'on ne peut pas changer les règles sur le coin de la table. Tu sais, il y a une entente. Est-ce que les États-Unis sont encore... Parce que l'entente prévoit que tu dois faire ta demande d'asile dans le premier pays sûr dans lequel tu arrives. Donc, les États-Unis sont considérés comme un pays sûr. Donc, on n'est pas censé recevoir des gens des États-Unis en demande d'asile. Mais ça ouvre une réflexion. Est-ce que les États-Unis sont un pays sûr? Je pose la question.
Ben,
et est-ce qu'on peut renvoyer des gens... En Haïti, par exemple, c'est vraiment un excellent exemple, Yannick. Ouais. Toutes ces questions, on se pose, mais on ne peut pas décider ça sur le coin de la table et surtout pas en campagne électorale.
Exact.
Donc, c'est pour ça que je pense que Mark Carney a bien fait de dire, pour l'instant, ce sont ces règles-là qui s'appliquent.
Les enjeux les plus importants de la campagne électorale, toujours concernant le fameux sondage Nandos-La Presse, j'ai été surpris. Je pensais que c'était l'économie qui allait sortir en premier et non, c'est le gros orange l'autre bord. Donc, négocier avec le président Trump.
Les deux sont liés, par exemple?
47%, l'économie 25%.
Oui, mais les deux sont liés. T'sais, en ce moment, l'anxiété par rapport à M. Trump, c'est qu'il détruise notre économie, là, finalement.
Mm-hmm.
Même les menaces d'annexion qu'on a vues et tout ça, on commence à comprendre un peu la psychologie en arrière, puis finalement, c'est de nous soumettre économiquement. Mm-hmm. Là, c'est, puis d'aller chercher ses intérêts économiques, que ce soit en termes de minéraux stratégiques, accès à l'eau, etc. Donc, on verra comment ça se décline. Mais je ne suis pas vraiment surprise que les gens soient omnibulés en ce moment par M. Trump.
Donc, de voir que Carney est beaucoup sur l'économie, il est target.
Absolument.
Que je regarde les autres, là, tu sais, je veux dire, la santé, pour moi, ça devrait être prioritaire, là, à la grandeur du
Canada. Mais au fédéral,
on est à seulement 3%. Mais quand même, ils ont des portefeuilles, là, qui distribuent à travers les provinces. Ça a sorti à 3%. Le logement, moi, j'entends parler énormément de logement autour de moi, seulement à 2%.
Ouais. C'est un énorme engrenage. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprend à quel point c'est interrelié
tout est
avec d'autres choses,
exact.
Dont l'immigration.
Le déficit, Antonine, 2%.
En ce moment, c'est fou, hein, parce que
le déficit,
même...
c'est sûr qu'il prend le bord. Pour vrai, c'est tellement des grosses sommes, les gens conçoivent même pas ce pas tangible.
Rendu là, t'as absolument raison, c'est dur à concevoir. Puis en plus, étant donné qu'on est menacé que notre économie soit mise à terre complètement, ça devient un peu futile. Tu te dis, bon, ben, puis tu sais, juste regarder les projets d'infrastructures majeurs, je peux penser au tramway, par exemple, il y a plein de gens qui disaient, ça n'a pas de bon sens, des milliards, des milliards, des milliards. Puis là, tu as comme une partie des gens qui disent, ouais, c'est vrai qu'il va falloir se rabattre économiquement sur des projets d'infrastructures. Moi, je pense que ça peut même augmenter l'acceptabilité
pour la création
de certains projets.
Mettons, puis
Oui, parce que quand tu es en récession, souvent, on va compter beaucoup sur le gouvernement pour être un donneur de jobs.
Ça s'appelle l'économie keynésienne.
Voilà, ça n'a pas démodé depuis les années 30. Donc, ça change tout. En fait, c'est ça. Le retour de Trump change tout. Ça a complètement changé le focus de cette campagne électorale-là. Un Mark Carney, il y a un an, ce genre de politicien-là, un peu drabe, là, puis t'sais, qui parle juste d'économie, juste d'économie, même de façon très, très limitée. Est-ce qu'il y aurait pu...
On a-tu un comparatif, mettons, qu'il n'y a pas passé? Andrew Scheer, ça ne marche pas côté conservateur, mais côté drabe, ça pouvait fonctionner un peu sur la parure.
Ben, Stephen Harper, c'est pas un bout en train, là, Stephen Harper.
Non?
J'en ai un exemple, Michael Ignatieff.
Oui, c'est ça, que lui, ça n'a pas du tout pogné à l'époque. Peut-être qu'en ce moment, Michael Ignatieff... J'avoue que je me rappelle plus exactement, tellement que ça fait longtemps, puis il ne m'a pas marqué plus qu'il faut.
Ouais.
Mais je me disais justement...
Il était très, très beige, là.
C'était... Mais c'est le même genre de monsieur, là.
Ouais,
on regarde la photo,
ressemble
là,
même physiquement, là.
Ben oui, c'est ça. C'est comme des jumeaux séparés à la naissance. Mais justement, parlant de
Stephen
Harper...
Est-ce le même?
C'est peut-être la même personne, OK? On le sait pas. On les a jamais vus dans la même pièce, en tout cas pas moi. Je reviens sur Stephen Harper un instant, parce qu'on se demande, est-ce que les conservateurs vont pouvoir remonter la pente? T'sais, on a vu des sondages dans lesquels c'était plus serré dans les derniers jours, puis on a entendu aussi les militants conservateurs, là, il y avait un gros rassemblement cette semaine, puis ils disaient qu'ils ne croyaient pas à ça, les sondages, puis que c'est Pierre Poilievre qui allait gagner. Mais je me disais, l'appui quand même de Stephen Harper qui sort pendant la campagne électorale, OK, ça va de soi que Stephen Harper appuie Pierre Poilievre. Il n'y a personne qui
a plus le parti.
C'est son parti. Bon. Mais la crédibilité de M. Harper... T'sais, qui a l'air d'un homme sérieux, là, t'sais, puis qui pourrait compétitionner avec le sérieux puis l'adulte dans la pièce
De
Carney. Moi, je pense que ça vient quand même aider un peu Pierre Poilievre. Ouais. C'était une bonne journée. Là, ouais.
Mais lui. Surtout quand il n'y a pas d'appui d'une équipe qui est clairement présentée avec des candidats peut-être vedette, mais du moins les candidats forts en politique, ça n'a pas de sens, ça.
Il ouais. est seul.
Je ne suis pas très libéral, Antonine, là, mais il faut choisir juste avec tout le monde. Quand j'ai vu qu'on a commencé à fouiller dans le passé de Mark Carney sur ses parents, qu'est-ce qu'on dit, ses parents, dans le passé? On s'est attaqué aussi à la femme de Mark Carney. On s'est attaqué à la fille de Mark Carney. Bon, mis à part son look un peu QS, incorrect, là. Mais de voir qu'on a sorti une citation de son père... Qui était dans l'air de son temps.
Ben, c'est ça.
Pour ramener ça en 2025, ouais. Tu te dis, tabarouette, son père, c'est quoi? C'était un nazi, là?
Ouais, mais. Puis, tu sais, on peut être choqué parce qu'il a dit son père, mais c'est parce qu'on n'est pas responsable de ce que dit notre famille à un moment donné.
Exactement.
Véronique Cloutier et son père, mettons. C'est deux personnes différentes.
Mais tu peux pas comparer une citation qui a été dite.
Bon, en plus.
Mettons, en 1940, avec. La réalité d'aujourd'hui.
Puis même si elle disait aujourd'hui, là, on pourrait se choquer de ce que l'autre, de papa Carney a dit, mais tu peux pas
l'attribuer.
Tu peux pas l'attribuer à l'autre personne. Il y a l'équivalent cette semaine, un article du Devoir là, qui parlait de l'oncle de la femme
oui.
de Pierre Poilievre,
oui.
okay, qui aurait comme fraudé l'immigration, là, en gros. Là,
ouais.
Le bandeau à la télévision me faisait beaucoup rire, André, c'était le prochain invité de Denis Lévesque.
Et moi, je décroche. Quand tu t'attaques aux membres de la famille, des individus, leurs enfants et tout ça, je décroche totalement.
Hey,
on sort de la politique carrément.
Si ça avait été la femme de Pierre Poilievre qui est arrivée par immigration illégale ou autre, je
ben
comprends
oui.
qu'un journaliste voudrait en parler.
Pendant qu'ils sont en couple.
Pendant qu'ils sont en couple, moi, exactement.
Mais demandez-vous pourquoi le monde ne veut pas aller en politique. Moi, les gens me disent, ça tente pas de te présenter en politique, il me semble, puis je dis, ouais, je sais pas, ma famille, tu sais, je pense à tout ça. Ben pourquoi? Ben voyons donc, ben c'est justement pour ce genre, excusez-moi, de niaisage-là.
De grattage.
Ou est-ce que, tu sais, je sais pas, moi, mon cousin, as-tu fait un statut Facebook à un moment donné que, tu sais, je sais pas. C'est honnêtement, on est dans les fonds de tiroir en ce moment.
Mm-hmm.
Là, c'est à la mi-campagne, hein, fait que c'est un peu normal, là, ça ralentit, là, on sait plus trop de quoi parler.
Choses.
Ça fait deux semaines qu'on répète un peu la même affaire.
Ouais.
Les débats sont la semaine prochaine. Ça paraît.
Mais ça me tue, ce type d'information-là, parce que je me dis, tabarouette, que des fois, c'est juste mis en place. Ça fait la une. Il y a le bandeau qui n'a pas toujours rapport avec l'histoire. Il nous est arrivé quelque chose hier, là. Écoute, William Trudel, de Trudel Alliance, qui est un homme d'affaires bien en vue de la région de Québec. C'est une entreprise qui est hyper positive pour Québec. Ben, il avait embauché sur son board Sam Ahmad. Et Sam Ahmad, pendant des années, a été sur le board du conseil d'administration de Trudel Alliance.
Quand il n'était plus en politique.
Et à partir du moment où il a dit à William Trudel, je retourne en politique, ils ont dit, parfait, tu vas devoir me faire une lettre de démission, puis ben, tu ne pourras plus jamais travailler pour nous tant aussi longtemps que tu vas être en politique. Ce qui est tout à fait normal.
C'est la chose à faire.
Catherine Lamontagne, qui est une excellente journaliste, a fait un travail pour dire ben Sam Ahmad a des liens avec William Trudel.
Ça, c'est correct, c'est déjà vu, c'est normal.
Et là, le titreur.
C'est plus ça.
Le titreur, puis le photographe, on voyait Sam Ahmad avec William Trudel, puis Sam Ahmad ami avec le géant Trudel, comme si c'était négatif.
Non, comme c'était ka-ching-ka-ching, s'il rentre à mairie, il va faire passer les travaux
ben,
de ses amis
négatif.
En premier. Puis, oui, mais tu sais,
ouais.
allons-y plus creux, là.
Puis là, je lis l'article, ça n'a aucun rapport avec le titre. Là. L'article était bien correct. C'est juste que ça met dans l'embarras une entreprise. Puis ça
pour
fait,
rien.
Ça, mm-hmm. ça crée des liens pour rien. Où il y a des gens qui ne liront malheureusement pas l'article.
Exact.
Ils vont juste se contenter de lire le bandeau en haut.
Parce que ça peut faire une petite piqûre d'avertissement, j'appelle. C'est-à-dire, tu sais, on vous check,
mm-hmm.
vous connaissez. Fait que, tu sais,
soyez
droit. C'est ça, soyez drette.
Puis ça, c'est correct parce que Sam Ahmad l'a assumé, il l'a dit. Puis je
oui,
pense que
mais...
Denis avait un bon commentaire hier que ça sorte avant. Qui, par exemple,
ouais.
s'il est élu, ça sort après. Ben
mais,
là, les gens peuvent voter en conséquence.
Mais c'est vrai que les gens lisent juste les titres. C'est ça
mais
qui est plat.
Sauf que là, c'est de la faute à qui, mettons? C'est bien plus la faute du titreur que de n'importe qui là-dedans.
Oui, mais là, moi, pour avoir fait des relations de presse là, pendant très longtemps
tu
dans
sais
ma
ce
vie,
qui
là, les titreurs, là, qui sont tous dans une boîte puis on peut pas leur parler, là. Tu sais, moi, ça m'arrivait souvent, j'avais un titre qui avait aucun bon sens, mais j'appelais le journaliste. Puis là, c'est quand c'est pas moi. C'est le titreur.
Mais je sais que
ben,
c'est des
appelle-les!
Il y a des exigences patronales. Tu sais, mettons, pour
ouais,
avoir
là...
connu beaucoup de gens là, qui faisaient de la presse écrite, là, ben il y avait des conflits, des fois, à l'interne par rapport à un texte que tu écris en tant que journaliste.
Ouais, mais ça n'a pas d'allure.
Puis qu'il y a
ça
des modifications qui sont faites, puis après ça, c'est ton nom qui est là comme journaliste. Oui. Et c'est toi qui ramasses, j'appellerais ça, le camion de marde sur ta tête.
Mais c'est normal.
Et qui joue sur ton éthique et ta crédibilité.
Écoute, vous savez pas le nombre de fois que, par exemple, je fais une publication sur les médias sociaux. Okay? Par exemple, un extrait vidéo de notre émission, d'un panel qu'on a fait. Puis là, il y a le titre, c'est pas moi qui l'ai écrit, le titre. Puis là, les gens se mettent à commenter, et je sais par les commentaires qu'ils n'ont pas écouté. Je suis comme, écoutez-la. Pouvez-vous écouter avant de commenter?
Fait que là, c'est la faute à qui? Parce que si la personne est rendue attitrée comme ça, on a devoir de responsabilité de groupe de se dire, ben là...
C'est pour avoir des clics.
C'est ça. Mais là, on clique quand c'est ça. Mais sinon, on clique pas. Mmh. Là, c'est tellement rendu
marchandisé. Il y a un devoir, je m'excuse, je vais tout de suite pointer un doigt. Il y a un devoir de rigueur. OK? Fait qu'on peut chialer contre les citoyens qui cliquent sur, qui cliquent sur les titres, ça change.
Mais on devrait pas droit, continuer là. Cet engrenage-là, en fait.
Ben, vraiment pas. Puis,
parce que si on l'offre pas...
En politique, ça fait vraiment partie de... Ouais. Tu sais, puis pour vrai, posez-vous la question. Demain, je m'en vais en politique. Qu'est-ce que ma famille va vivre? De qui je suis responsable? Sur quel CA j'ai déjà siégé? Je suis amie avec telle personne qui travaille dans telle entreprise, qui a des contrats avec le gouvernement. Hey, ça finit plus.
Non, ça
l'important,
finit plus.
C'est les actions. C'est sûr qu'il y a des conflits, des apparences de conflits d'intérêts qui sont trop grosses. Tu sais, par exemple, tu pourrais pas être ministre des infrastructures et ton conjoint est... je sais pas moi...
Entrepreneur en construction qui bâtit tes infrastructures.
Oui, genre les gros, ceux qui sont sur tous les chantiers, là, j'ai oublié le nom. Là.
Peux-tu aller là?
Ah, mais c'est parce que Pascal m'envoie... Pascal m'écrit les affaires sur des papiers en me disant, peux-tu parler de ça?
Mais c'est parce que j'écoutais notre conversation puis je me disais...
Oui, on peut en parler.
C'est quand même complexe là, en ce moment. C'est ce qui se passe du côté de la SAAQ CLIC. Ça va vraiment avec ce qu'on est en train de décrire. Est-ce qu'en politique... Parce que Yannick et moi, on disait autrefois, si t'étais la fille de quelqu'un qui avait travaillé dans un ministère ou dans un gros point du gouvernement, Colin, tu pouvais être la personne la plus qualifiée, celle qui connaissait plus ce dossier, mais t'étais tassée. T'étais malheureusement la fille de, donc t'étais née dans la mauvaise famille pour ta passion, par exemple.
Puis des fois, c'était l'inverse. L'exemple que je t'avais donné, Pascal, que je me souviens, moi, c'est le chef de l'UPAC qui avait comme gendre le chef de la Sûreté du Québec, qui avait comme femme
une
des responsables du bureau d'enquête le plus important de police.
C'est comme si c'était rendu un peu plus acceptable. Il ne sait pas c'est quoi, selon ton observation, une spéculation quelconque.
Ben, c'est-à-dire que quand les règles formelles se clarifie, alors tout l'informel devient plus acceptable. Mais c'est des cycles. À un moment donné, on va dire... Voyons, c'est pas un peu bizarre. Je donne un exemple rapido. Mark Carney, il n'a pas déclaré tous ses avoirs quand il est devenu chef du Parti libéral parce qu'il n'est pas député. C'est les députés qui ont ce processus-là.
Mais ça a été critiqué.
Mais est-ce qu'éventuellement, on va élargir? Parce que là, il est pogné là-dedans. Le salaire épouvantable. Sauf qu'à un moment donné, on pourrait dire ben tous les chefs de parti doivent le faire aussi, peu importe.
Point. Donc, si tu te présentes, c'est en connaissance de cause que ça, c'est sur papier. Fait que c'est peut-être pas assez clair sur papier,
exact.
Justement.
Quand c'est pas clair, ben ça fait de la spéculation.
Mais avant, il me semble qu'il y avait une rigueur. Je pense que c'est la chronique rigueur aujourd'hui.
Oui, le mot du jour étant rigueur, mais il faut pas non plus être nostalgique et idéaliser le passé.
Ah, rigueur. Collègue. 1052, Antonin Iacarini, est-ce qu'on te voit à la télé ce soir?
Non.
Non!
La réponse,
soir de relâche pour Antonine.
Congé.
Donc, je te souhaite de passer une belle semaine, du moins ce qui en reste. On fait une courte pause et on revient tout de suite, 1052.